Bonsoir, bienvenue à cette deuxième séance de cette traversée de l'histoire à pas de géant. Ce soir, je vais commencer par faire un petit retour sur la semaine dernière. Comme ça, ceux qui ont séché la dernière fois, ils auront un résumé. Comme l'indique le programme, on va faire le même exercice auquel on s'est livré la semaine dernière, mais cette fois-ci avec la musique. Donc on va traverser les siècles que j'ai identifiés comme étant un moment charnière dans l'histoire de la conscience, notre conscience, donc la tradition occidentale chrétienne. Quand je parle de conscience, je répète, je me réfère à la vision du monde qui est la nôtre. Ces visions du monde, justement, changent à travers l'histoire, et c'est ce qu'on a pu voir dans la peinture, dans l'histoire de la peinture, dans l'architecture, et c'est ce que j'espère, on va pouvoir entendre dans la musique. La musique également nous dit beaucoup de choses sur ce qui se passe dans un autre domaine que le domaine musical, c'est le domaine de la pensée et le domaine de l'esprit humain, collectif, de la religion également, nous dit quels sont les événements, et surtout les transformations, les métamorphoses qui se produisent au même moment, ou parfois même dans le cas de la musique, on peut voir qu'elle anticipe un peu sur ce qui va se passer dans ces autres domaines que je viens d'évoquer, comme si chez les musiciens, il y avait une intuition de ce qui se prépare. Et dans la dernière séance, la semaine prochaine, je ferai donc une synthèse où je reviendrai sur le tableau historique que j'ai esquissé la dernière fois. Et je me rends compte que je l'ai esquissé un peu vite et de façon un peu brouillonne, donc je reviendrai sur la chaîne de façon un peu plus systématique, j'espère. Et je vous montrerai également la semaine prochaine qu'aujourd'hui, il y a également des domaines de la pratique artistique humaine qui nous parle de ce qui se produit au niveau de la conscience, au niveau de la représentation du monde, au niveau de la vision du monde qui est la nôtre. Vision du monde, ça inclut bien sûr les espoirs, les théories, les grandes théories, mais également tous les préjugés qui sont les nôtres et qui nous empêchent de voir d'autres choses. Toutes les visions du monde, quelque part, ouvrent un espace de possible à la pensée, aux représentations qu'on se fait de ce qu'est le monde, de ce qu'est l'être humain, de ce qu'est le rapport entre l'être humain et le monde, de ce que devraient être ces rapports, de ce qu'ils pourraient être, de ce qu'ils ne devraient pas être, mais en même temps, elle nous ferme toujours le regard sur d'autres possibles, et ces autres possibles s'ouvrent. C'est à travers l'histoire que ces autres possibles sont susceptibles de s'ouvrir. Pourquoi ? C'est un mystère. Il n'y a pas d'explication causale, en tout cas à ma connaissance, à ce type de phénomène qui ressemble à des phénomènes un peu cycliques qu'on verra la semaine prochaine. Alors, voyons d'abord. Je répète donc comment on en est arrivé à ces questions. Vous vous rappelez que la question s'est posée, dans mon cas, à partir d'un exemple historique du XXe siècle, qui est l'école du Bauhaus, donc qui est la première école de design, d'architecture et d'urbanisme moderne, qui... dans son premier manifeste, qui est un manifeste extrêmement, extrêmement ambitieux et extrêmement radical par rapport aux pratiques qui avaient cours à ce moment-là, on trouve donc sur le manifeste cette représentation d'une cathédrale gothique, ce qui nous laisse un peu perplexe. En effet, il y a une certaine perplexité à voir sur un document qui se veut le plus moderne de l'époque, et qui est représenté par l'architecture qu'on voit ici à droite, n'est-ce pas, qui donne ce type de forme architecturale, et on fait une relation avec l'époque des cathédrales, on se demande bien pourquoi. En lisant les textes, on tombe devant la même, on a un peu la même perplexité, le mot d'ordre principal, le fondateur du Barros. À gauche, vous le voyez, il se proposait de réaliser une nouvelle unité entre l'art et la technique. Alors, bien sûr, on peut comprendre cette formule en termes purement artistiques. On peut se dire, ben, c'est normal qu'au XXe siècle, vu la révolution industrielle et tout ça, les artistes contemporains doivent avoir une meilleure connaissance des éléments techniques de leur production, des matériaux, des technologies, en particulier dans les arts appliqués et en architecture. Il faut connaître le béton, il faut connaître l'acier, il faut connaître les propriétés du verre pour pouvoir utiliser tout matériau qui n'était pas disponible jusqu'au XIXe siècle. Mais une lecture un peu plus attentive de la chose, et évidemment alimentée par d'autres textes qui ont été publiés à ce moment-là, permet de voir que c'est une façon de poser une question bien plus fondamentale. On retrouve dans cette polarité des questions que l'humanité s'est posées sous d'autres formes, bien longtemps auparavant, dans d'autres traditions spirituelles, religieuses ou philosophiques. On peut mentionner le yin et le yang, n'est-ce pas ? On peut mentionner le mythe de l'androgyne dans l'ésotérisme occidental. On peut mentionner bien d'autres exemples. Et cette façon de lire le mot d'ordre de Gropius se révèle être féconde si on approfondit les textes et les documents disponibles dans les archives donc, de l'école, qui sont très bien fondés. Donc on peut lire, par exemple, derrière cette polarité, cette volonté de réconciliation, une recherche humaine presque éternelle qui est la recherche de conciliation entre l'esprit et la matière. Dans les traditions ésotériques, on travaille encore plus sur ces questions-là. Dans l'ésotérisme chrétien, par exemple, on personnifie les deux extrêmes de la polarité, le domaine de l'art et le domaine de l'esprit, avec les dérives possibles lucifériennes, comme on les appelle, et le domaine de la technique, le domaine de la matière, le domaine du calcul, le domaine, comme disait René Guédon par exemple, le domaine de la quantification, qui est le domaine arrivant. C'est une parenthèse, pour évoquer qu'il y a derrière ça, et derrière le projet du Barros, quelque chose de beaucoup plus ambitieux que simplement créer une nouvelle école d'art. Et l'ambition est, on peut comprendre que ça ne soit pas inutile de proposer un projet aussi ambitieux dans la mesure où les étudiants qui vont diplômer de là vont construire le monde. Donc c'est une responsabilité considérable, je l'ai évoqué la dernière fois, donc je ne m'attarde pas là-dessus. Mais voilà, c'est pour replacer un peu la chose dans un contexte plus large qui justifie le fait qu'on s'intéresse à une histoire humaine plus longue que simplement l'histoire du modernisme artistique au 19e, 20e siècle et 21e siècle. C'est des images que j'ai montrées la dernière fois également, pour confirmer un peu l'hypothèse de travail que je viens d'évoquer, ou l'hypothèse de recherche. On a vu que le cheminement des étudiants dans l'école du Barros était double. Il y avait un cheminement qui les amenait vers une expertise, une maîtrise des outils professionnels, à gauche, donc qui part du matériau élémentaire jusqu'à l'architecture et sa maîtrise, mais il y avait également un cheminement intérieur, si vous voulez, de sa conscience intérieure, qui l'amenait à une expansion de sa conscience pour justement pouvoir saisir les enjeux beaucoup plus large qui sont derrière les simples enjeux architecturaux ou de design. Donc, il se posait au Barros la question du rapport de l'être humain au monde. Quel pourrait être ce rapport? Quel devrait-il être? Quel a-t-il été dans le passé? Quel pourra-t-il être dans l'avenir? Et quelle est la responsabilité collective et individuelle des êtres humains à l'égard de ce monde? C'est un problème qui se pose aujourd'hui dans le cadre du développement durable, comme je l'ai évoqué déjà la dernière fois. Et donc, je reviens à la question initiale. C'est en quoi ce que j'ai montré par la suite, c'est-à-dire l'histoire de la peinture, l'histoire de la philosophie, l'histoire de la religion, l'histoire de l'architecture, peut-il concerner des jeunes gens, des jeunes filles de 19 ans, 20 ans, 21 ans, qui se destinent à un métier des arts appliqués ou du design? Voilà la question qui est posée et voilà la justification de ce qu'on a vu la dernière fois. Alors rappelons, donc j'ai quelques images pour rappeler ce qu'on a vu, également, pardon, ça commence. Donc ce qu'on a vu, l'exercice auquel je me suis livré, c'est de vous proposer de retourner en arrière justement au temps des cathédrales et avant, pour voir ce qui s'est produit et comment on peut interpréter ce qui peut nous intéresser dans le cadre des questions qu'on se pose. Alors, voici d'autres images que j'ai choisies donc, dans ce répertoire énorme. On a vu, donc on s'est d'abord livré à observer le monde très gothique. Je rappelle que la charnière, je l'ai identifiée comme étant autour des 11e, 12e, 13e siècle. En gros, c'est assez élastique, puisqu'on est dans la longue histoire, on n'est pas à une date bien précise. Et j'avais identifié, dans le domaine de la philosophie, Thomas d'Aquin comme étant peut-être un personnage charnière, comme il en existe à toutes les époques. Par exemple, Nietzsche est également un personnage charnière, chez qui tout le drame de l'époque dans laquelle il a vécu peut se retrouver. On verra en musique que Beethoven est également un personnage charnière. Donc, avec un peu d'attention, il suffit presque d'étudier la biographie, la correspondance et bien sûr la musique de Beethoven pour comprendre quel était le drame qui se jouait à l'époque à laquelle il a vécu. Alors, donc, on est à l'époque romane et ce que laissait entendre peut-être la cathédrale de Gropius, c'est le fameux vitrail de Chartres où il disait peut-être nous ne sommes que des nains sur les épaules des géants. C'est ce que représente donc peut-être qu'on n'a pas, il n'est pas tout à fait légitime de dire parce qu'on est des modernes, on a tout compris, tout ce qu'on faisait avant, tout ce qu'on disait avant n'est pas bon, c'est même pas la peine de s'y intéresser. Ceci dit, les cours d'histoire étaient tabous aux barons. On n'enseignait pas l'histoire de l'architecture, l'histoire du design, l'histoire des arts africains, c'était tabou parce qu'il fallait faire table rase du passé. Le passé était tellement invisible, sauf le passé très lointain. Ensuite, on a vu le contraste entre l'ancien monde et le nouveau monde qui naît à ce moment-là, donc à la charnière du, disons, autour de 1250, pour aller vite. Et on a remarqué que dans la production artistique, peinture, sculpture, architecture, le contraste était frappant. Et que ce contraste, on pouvait le caractériser du point de vue phénoménologique, c'est-à-dire du point de vue simplement de ce qu'on voit. On a besoin de rien savoir sur les artistes quand on les connaît qui ont produit ces œuvres, sur la date à laquelle elles ont été produites. Il suffit de le regarder pour dire, ben là, effectivement, il s'est passé quelque chose entre les deux. Si on se souvient quand même que les deux œuvres peut-être sont éloignées d'un siècle, ce qui n'est pas très long dans la longue histoire. Pour caractériser rapidement l'époque précédente, on retrouve dans d'autres traditions artistiques cette espèce de dimension abstraite, cette espèce de dimension retirée du monde terrestre, qu'on retrouve dans l'art roman, et à droite, au contraire, une dimension bien incarnée de la condition humaine. Incarnée avec toute sa beauté, bien sûr, mais également avec toutes ses caractéristiques. Donc, on passe d'un monde, ou d'une vision du monde, ou d'une conscience dans laquelle ce qui se passe sur Terre autour de nous n'est peut-être pas le plus important, à une vision du monde dans laquelle ce qui se passe autour de nous a quand même une certaine importance. Ne serait-ce que même sur le plan religieux et sur le plan spirituel. Pardon. À la même époque, donc 13e, 14e, 15e siècle, tout ça c'est un peu dans la charnière, on sait qu'en astronomie, par exemple, on change radicalement de système astronomique. On passe d'une vision où la Terre est le centre du monde, d'un monde fermé et bien ordonné autour de la Terre, au système héliocentrique. C'est des choses qui sont trop connues. Donc on s'y attarde. On passe, comme dit le titre d'un très bel ouvrage de Coiré, d'un monde clos, où tout est en ordre, tout est à sa place, et tout est organisé harmonieusement, c'est normal puisque c'est Dieu qui l'a fait. Donc le monde dans lequel nous sommes est parfait, disent les contemporains de l'art roman, hein, donc du monde clos à l'univers infini, un monde dans lequel, cette fois-ci, l'homme s'est incarné et qu'il s'agit peut-être de comprendre d'une autre façon. Ça a des conséquences considérables, une autre façon de représenter les choses. On passe d'un monde dans lequel le monde intérieur et le rapport du monde intérieur de l'esprit humain à l'esprit du monde, c'est-à-dire l'esprit de Dieu pour ceux et celles qui se rattachent à Dieu, mais de l'esprit de la nature, l'esprit du monde, pour les païens, par exemple, on passe à un monde dans lequel ce qui se passe à l'extérieur du monde intérieur de l'être humain a plus d'importance. On veut découvrir la terre sur laquelle nous sommes, et pas l'espace dans lequel nous irons peut-être un jour si nous sommes sages et gentils, comme disaient les catholiques. Ils disent toujours. Donc on passe d'un monde également où ce qu'on représente en art ne sont plus les personnages de cet autre monde, mais ce sont des personnages bien vivants, de chair et d'os, et péché suprême, ils se représentent eux-mêmes sur la toile, c'est l'artiste, un des autoportraits qui apparaissent à ce moment-là. C'est une chose qui était bien sûr inconcevable dans le monde précédent, tout simplement parce qu'il n'aurait eu aucun sens. Donc l'homme auquel on s'intéresse désormais n'est plus l'homme d'esprit, l'homme spirituel tel qu'il est relié à toutes les sphères qui sont extra-lunaires, mais c'est l'homme qu'on rencontre tous les jours dans la rue, l'homme de chair, l'homme de chair et d'os, et l'homme humain incarné sur la terre. C'est une énigme, c'est-à-dire dans la mesure où l'idée que tout ce qui existe autour de nous, on sait, on ne dit pas encore que ce n'est pas Dieu qui l'a créé, on n'est pas encore avec l'hypothèse de Darwin. Mais on commence à se dire, ben, c'est vrai que ce qui est autour de nous, c'est Dieu qui l'a créé, donc on n'a même pas besoin de se poser la question de savoir comment ça fonctionne, d'où ça vient, parce que c'est de toute façon parfait, mais ça nous intrigue quand même davantage. D'autant plus qu'on trouve parfois que dans les Écritures, il y a des choses qui ne correspondent pas tout à fait à la réalité. Alors ces choses commencent à être permises. On commence, mais il faut attendre le XIIIe siècle quand même, à dire, ben là, les Écritures, je ne comprends pas, parce que la Bible a dit ça, et moi, je vois ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Avant, on disait, ben c'est pas possible, tu te trompes. Maintenant, on se dit, ben peut-être je ne me trompe pas. Peut-être qu'il y a des choses que... Je pourrais découvrir et savoir sans me référer uniquement à la Bible dans le monde chrétien. D'autres images qui évoquent ce nouveau monde, c'est également le monde des découvertes par la suite, hein, ça ouvrira là-dessus. C'est un monde dans lequel on est soucieux de représenter ce qui se présente devant nous de la façon la plus exacte possible. Donc il ne suffit pas d'évoquer le monde dans lequel nous sommes, ce qui est suffisant à l'époque romane, mais il s'agit maintenant de le représenter. La naissance de la perspective n'est pas tout à fait contemporaine, mais elle en découle. Auparavant, c'est pas parce qu'ils étaient plus bêtes avant qu'ils n'ont pas découvert la perspective, c'est parce qu'elle n'aurait servi à rien. C'était pas pensable. Vous voyez, on était dans un espace où l'idée de la perspective, l'idée du réalisme, etc., l'idée des dissections anatomiques, était dans des espaces qui étaient en dehors de la vision du monde. J'ai évoqué ça la dernière fois au moment de la panne technique. Donc on est également du point de vue artistique dans un monde où les commandites ne viennent plus de l'esprit et de l'inspiration divine, mais les commandites viennent de mécènes et des régents terrestres et non plus des régents célestes. Les valeurs du nouveau monde, on les connaît puisqu'on y vit encore. Aujourd'hui, ce sont des valeurs matérielles, bien sûr. La richesse terrestre devient une valeur et quelque chose que l'on recherche. On peut résumer sur ces deux représentations, qui sont donc des représentations de la Renaissance, mais qui donnent une bonne synthèse de ce qu'on vient d'évoquer. À gauche, on a une séparation de plus en plus nette entre le monde terrestre en bas et le monde céleste. Donc, si vous voulez, Dieu, l'idée de Dieu s'éloigne de plus en plus des bordures de nos représentations. Il est toujours présent, il est encore présent même chez Voltaire, mais après, au 19e, c'est fini. La place, il dit, on n'a plus besoin de l'hypothèse de Dieu. Donc, il va falloir donc, attendre longtemps pour qu'il s'éloigne complètement. Parce que c'était. Il y en a qui ont voulu accélérer la chose et qui ont fini sur le bûcher. Et à droite, on peut résumer la chose, donc c'est désormais l'avenir du monde, et une partie en tout cas du destin du monde appartient à l'homme, et non plus à Dieu. Donc Dieu passe le relais à l'homme avec tout ce que ça peut impliquer en termes de risques, de responsabilités, mais également en termes d'enthousiasme et de mission et de projet. Donc on passe, comme le dit le titre de la série, du projet divin au projet humain. Il s'agira maintenant de se demander comment les êtres humains, donc individuellement et collectivement, vont s'emparer de ce projet, de construire le monde de façon à ce que ce monde demeure habitable, d'une part, et de façon à ce qu'il, pour les humains qui n'ont pas perdu complètement leur relation avec la spiritualité, comment il peut être également cohérent avec des convictions spirituelles passées ou futures. Voilà, ça résume donc assez bien je pense, la séance de la dernière fois. Et ce que donc je me propose maintenant, et je vous propose également, c'est d'écouter la même histoire en musique. Pour cela, c'est pas difficile, il suffit de la lumière pour que l'écoute soit meilleure. J'ai fait une sélection de morceaux, d'extraits de musicaux qui commencent autour du 10e siècle et qui vont ensuite se déployer plus tard que simplement dans la charnière. On va s'attarder à la charnière donc du 10e. Il n'y a qu'un extrait du 10e, le reste, disons 11e au début du 14e, donc la fin des années 1000 jusqu'au début des années 1300, qui sont les moments clés de la charnière musicale. Cette charnière, elle s'appelle pas roman gothique, dans le cas de la musique, elle s'appelle Ars Antiqua et Ars Nova, l'art antique et l'art nouveau. L'art Nova, le terme provient d'un traité justement du début du XIVe siècle dans lequel on dit que désormais on est entré dans le monde d'une musique nouvelle. Mais nous verrons qu'avant ce traité en fait conclut tout un processus qui s'est produit dans les siècles précédents. On verra que ça commence déjà au XIIe siècle pour la musique, donc un petit peu avant le passage de l'architecture romane à l'architecture gothique, de la peinture romane à la peinture gothique. Alors, on va d'abord écouter, je ne veux pas faire de commentaires pour le début, ensuite je vais accompagner un peu l'écoute par des commentaires, sinon c'est trop difficile comme exercice, c'est plus actuellement musicalement que visuellement par la peinture. Donc, on va d'abord laisser dérouler 4 extraits de musique de l'époque, donc pré-charnière, si vous voulez, 10e, 11e, 12e, 12e siècle. Ensuite, je reviendrai dessus.
Amen.
C'est de la musique sacrée. Donc à cette époque, il n'y a pas d'autre musique. Il y a de la musique profane, elle n'est pas connue. C'est sûr que dans les rues, on devait chanter, et on devait s'amuser, mais cette musique n'est pas restée dans la mémoire. Le problème de la conservation de la mémoire musicale, c'est plus complexe que les tableaux. Et de la restitution. C'est toujours autre chose, c'est de la musique vocale. Pas d'instrument. Les instruments ne viennent que plus tard. Non pas qu'il n'y ait pas eu d'instrument de musique à l'époque, mais pour la musique sacrée, il n'était pas question de faire entrer un instrument dans une église. Sauf l'orgue. Tous les autres, c'était trop terrestre, trop païen, et pour rendre grâce à Dieu, c'est la voix humaine qui était privilégiée, parce que c'est Dieu qui avait créé l'homme et Dieu qui avait créé sa voix. Caractéristiques. Autre caractéristique que ne vous a pas échappé, ce sont des lignes mélodiques uniques, simples. N'est-ce pas? La musique accompagne le texte. Le texte est principal. On n'écoutait pas ça pour entendre la belle musique. On écoutait ça pour entendre le texte. C'est le texte qui est fondamental. Bien sûr, c'est du texte sacré qui est infusé dans la Bible, dans les Écritures. Donc, la musique était là comme soutien au texte. Ça, on ne l'entend pas nécessairement, mais quand on en entend beaucoup, ça devient très lassant d'ailleurs, parce que c'est toujours un peu la même mélodie, en gros. Toujours un peu la même ambiance, disons, musicale. Ensuite, on voit une différence entre les deux premiers. Alors, dans le deuxième extrait, on a plusieurs personnes qui chantent, et toutes les personnes qui chantent chantent la même chose, la même ligne mélodique. Donc on a une musique qui est pensée de façon horizontale, avec un parallélisme absolument parfait des voix. Dans le troisième extrait, on a des voix à hauteur différente. On a des voix de femmes et des voix d'hommes. Néanmoins, elles chantent la même mélodie. Donc, on a encore une musique qui se déploie horizontalement, dans laquelle il n'y a aucune différenciation entre les divers chanteurs. Et dans le quatrième extrait, on trouve la même chose. Alors, pour réécouter maintenant que je vous ai dit qu'est-ce qu'il faut écouter, peut-être plus particulièrement, on va réécouter les deux derniers extraits. C'est la science du rapport entre les éléments. Donc on avait besoin de connaître cette science pour pouvoir apprécier la constitution du monde créé par Dieu. Pour pouvoir en saisir l'harmonie, il fallait être sensible aux différents rapports qu'il y ait des éléments entre eux. Alors, fini le dabla. Trois extraits.
Oh.
il y a à peu près un siècle et demi entre le premier des trois et le dernier. Alors, qu'est-ce qu'on entend? Ce qui frappe en premier lieu, c'est la présence de cette voix de basse, n'est-ce pas, qui accompagne la mélodie. Donc on a une structure, si je la dessinais, je peux la dessiner avec mes mains, on a une basse presque continue. Dans le premier cas, c'est la même note qui est répétée tout au long du morceau, et sur cette voix de basse, comme si elle s'asseyait dessus, une ligne mélodique qui se déploie, en solo ou à l'unisson. Dans le dernier morceau, la voix de basse subit quelques variations. Donc ça change, on a 2-3 notes en plus. Donc si on a une voix de basse qui ondoie un petit peu, disons, mélodiquement, mais et au-dessus, une voix mélodique beaucoup plus sophistiquée que la première, beaucoup plus ornementée que dans le premier cas, parce qu'on a franchi un siècle et demi, presque deux siècles, ce qui fait que ça, on autorise désormais des espèces de coquetteries ornementales qui, dans un siècle ou deux siècles auparavant, n'étaient pas autorisées. C'était très délicat de proposer des innovations musicales au cours de ces siècles, et d'autant plus qu'on était toujours dans un lieu sacré. Donc il fallait vraiment faire attention à ce que les innovations qui auraient pu être apporté ne soit pas trop audacieuse d'une part et ne soit pas trop humaine, que ces innovations reçoivent la bénédiction de Dieu, donc qu'elles soient en accord avec ce qu'on imaginait que Dieu avait dit. N'oublions pas qu'on est chez les catholiques avec une vision du christianisme très dogmatisée. Qu'est-ce qui se passe dans le troisième? Avec cette voix de basse qui commence un peu à ondoyer, si on l'écoute attentivement, les deux voix chantent les mêmes paroles. Sauf que, évidemment, par exemple, sur la partie ornementée, les paroles c'est Widerrum. C'est-à-dire, il en faut une minute pour dire Widerrum. Alors, la voix de basse, elle dit une minute. Et la voix au-dessus, c'est pi. Et là, il faut que ça colle avec la voix de basse. Là, on part à des. Et voilà, il faut que ça colle encore là quand on se retrouve ensemble. Et on continue comme ça. Donc, on a une vision assez, bon, un peu nouvelle de la musique, où on commence à penser que c'est pas d'abord religieusement interdit de proposer ce type d'innovation, mais autrement, techniquement et scientifiquement ou esthétiquement, parce que les deux, on a vu tout à l'heure qu'ils étaient un peu confondus, c'est également possible. Autrement dit, à l'oreille, ça passe, et surtout, ça permet encore d'entendre le message sacré. Ça, c'est évidemment le souci essentiel. Donc, on ne se perd pas, on l'entend encore, même s'il y a ces espèces de fioritures. Vous voulez réécouter le dernier morceau, là, sur le Widerrum, une minute de Widerrum, c'est pas mal. Un peu une autre caractéristique du dernier morceau, On connaît le nom du compositeur. C'est au XIIIe siècle qu'on commence à connaître les noms des compositeurs, tout comme on commence à connaître les noms des architectes et les noms des artistes également. Donc, vous voyez, il y a cette forme d'individualisation ou de mise en valeur de la présence humaine, trop humaine, qui ne s'efface plus devant le service à rendre à la divinité. Donc ça, c'est également, historiquement, quelque chose d'intéressant et qui, il faudrait voir comment en philosophie ça se traduit. Il n'y a pas l'équivalent parce qu'on connaît les auteurs en philo depuis l'Antiquité. Donc là, on n'a pas ce même phénomène. Alors, on va voir comment ça évolue. Donc, on sent venir la chose, n'est-ce pas? On se dit, ben tiens, c'est pas mal finalement. Et puis, bon, c'est plus agréable que le chant monodique des siècles passés, d'avoir ces deux voix. Peut-être qu'on pourrait un peu travailler sur la voix de basse pour lui donner un peu plus d'air et un peu plus d'ampleur mélodique. Et c'est évidemment ce qui va se produire, comme vous pouvez l'imaginer. Donc là encore trois extraits. Là, on est donc du 11e au 13e siècle.
Oh.
complexification de la conduite des morceaux. Dans le deuxième extrait, il y a également un instrument de musique qui vient battre le rythme. Auparavant, le rythme n'était pas... Si on regarde également l'évolution de la graphie musicale, bien sûr, ça c'est intéressant à suivre, cette évolution, il n'y avait pas de rythme. Le rythme n'avait pas d'importance puisque ce sont les mots de la phrase, comme de la poésie, qui indiquaient le rythme. Mais là, quand on commence à chanter deux choses différentes en même temps, à un moment donné, il faut qu'on se retrouve ensemble au bon moment. Donc, nécessité de commencer à structurer le morceau de façon, la pièce musicale, de façon rythmique. Alors, on avance doucement. Donc, pour le moment, on voit simplement une complexification de ce qu'on a entendu auparavant, avec deux voix. Dans un moment, on va penser, bah, tiens, si on en met deux, pourquoi on n'en mettrait pas trois? Donc, vous voyez qu'on a entrouvert une porte qui va ouvrir sur une façon de penser la musique verticale. Non plus seulement horizontale, c'est de façon mélodique, mais également verticale. Cette façon de penser la musique va s'imposer de façon à ce que ça reste audible. C'est le début de ce qu'on appelle la polyphonie, et c'est la polyphonie qui représente l'innovation majeure de cette charnière dans laquelle nous nous trouvons. Donc on peut résumer du point de vue musical en disant que c'est la polyphonie qui est l'événement majeur dans la musique au moment où on passe du roman de type en architecture et en peinture. Cette façon de penser la musique verticalement est absolument étrangère aux pratiques, et c'est extrêmement difficile pour les musiciens les plus chevronnés de pouvoir penser la chose de cette façon-là. C'est une révolution radicale dans le domaine esthétique et scientifique en l'occurrence, mais encore une fois, on ne fait pas trop la distinction. L'équivalent en peinture, c'est l'apparition de l'art abstrait. C'est aussi radical que l'apparition de l'art abstrait, c'est-à-dire une autre façon de penser la représentation en peinture. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine profane? On va entendre deux extraits. Dans le domaine profane, ça suit. Évidemment, c'est comme ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de la musique populaire. On suit ce qui se fait dans la recherche électroacoustique, par exemple, en musique dite classique ou en musique savante. Ou parfois même, c'est la musique populaire qui nourrit la musique savante, comme c'est le cas également aujourd'hui. Donc à l'époque, les deux sont complètement séparés, même s'il y a des compositeurs qui osent se lancer dans la production et dans la composition de musique profane, mais ce sont quand même deux mondes entièrement séparés, mais qui ne s'ignorent pas du point de vue esthétique, du point de vue musical. Voilà deux extraits pour avoir une idée.
Thank you.
un peu le même principe qu'on entend. On a noté également un instrument de musique qui accompagne. Ça également, ça va se développer de plus en plus avec les réserves que j'ai mentionnées tout à l'heure pour la musique sacrée, toujours. La musique purement instrumentale, il va falloir attendre longtemps encore pour qu'on assiste à des compositions musicales purement instrumentales. Ce n'est pas encore concevable à l'époque d'avoir une musique non vocale. La suite, ça va être de l'écoute. Je ne ferai plus de commentaires. Maintenant, vous êtes avertis, vous voyez ce qui va se développer. Donc, on va assister d'abord au phénomène suivant, on ajoute des voix. Dans le dernier extrait qu'on va entendre, là, il y a une dizaine d'extraits qui vont se suivre, qui vont se succéder. On a des morceaux à 8 voix, à 9 voix. Ce qui va également se produire, c'est une innovation au niveau de la complexité mélodique. Vous voyez, on a déjà vu que dans le XIIIe siècle, la complexité mélodique est plus grande, mais la variété mélodique est plus importante. Et là, il y en a qui vont penser que sur une phrase mélodique déjà assez complexe, on va venir greffer d'autres phrases mélodiques. Donc ça fera d'une mélodie au troisième degré, et tout ça, ça porte un nom. Et là, ça commence à devenir un peu complexe à manager, si vous voulez, à gérer, du point de vue du compositeur et du point de vue l'équivalent du chef d'orchestre, celui ou celui qui doit diriger donc la chapelle et le chœur. À quoi on va assister encore ? À une autre innovation plus tardive, hein, je pense au 14e siècle, je crois qu'elle intervient. On commence à mêler dans les lignes mélodiques du chant sacré, du chant profane. 14e, fin 14e, pas avant. Parce que ça, on ne rentre pas ça dans l'église, c'est pas pensable. Mais au bout d'un moment, peut-être qu'on trouvait que c'était une bonne idée. En tout cas, l'idée a fini par être acceptée. Mais ça, on n'entendra pas parce qu'il faut comprendre les paroles en latin. Une autre chose, pour faire la distinction, il faut connaître son répertoire biblique pour voir si c'est profane ou si c'est sacré, peut-être parmi. Il y en a qui distinguent. On observe également l'apparition des langues vernaculaires plus tard, plus dans, évidemment dans la musique profane, mais également dans la musique sacrée. Alors, voici donc ce qui arrive là. Il y a 7 extraits. Donc, 5 sont le même morceau. C'est le Gloria, tout comme pour la peinture. J'avais pensé que c'était plus visible quand on avait la même scène qui était reproduite, par exemple la scène de l'Annonciation ou la scène de la naissance de Jésus. Et ici, on aura donc le même morceau et on pourra apprécier la différence dans le progrès, ou l'avancement en tout cas, de la pensée musicale et de sa forme. C'est ce qui nous intéresse. Donc on va évoluer de la fin du XIIIe jusqu'à 16e siècle, au milieu du XVIe siècle. Donc, on enjambe quand même pas mal de siècles pour les besoins de la cause, également pour les besoins du temps. On a déjà passé une heure. Là, je vais vous demander si c'est possible de déborder un peu sur la deuxième heure ou bien c'est. Je ne fais plus le commentaire, mais on écoute. D'accord ? Alors, pour résumer, donc on assiste à cette amplification de la matière musicale, d'une part, ça c'est très net dans le coup, et à un mouvement d'indépendance relative des différentes voix, des différents registres. Donc en même temps, on est à une période où cette indépendance est perçue comme étant possible et parfois même souhaitable. Donc il y a la musique, davantage peut-être que la peinture ou sous une autre forme que la peinture, nous montre un autre geste très caractéristique de ce nouveau monde, c'est le geste de la naissance de l'individualisme. La possibilité d'un individualisme terrestre. Donc l'individualisme, c'est-à-dire la penser que quelque part l'homme peut se suffire à lui-même sans qu'il ait besoin d'être, pour être compris, d'être complété ou associé ou penser en même temps que, les termes peuvent changer, à quelque chose qui le dépasse. Donc ça, c'est également une des caractéristiques de ce monde nouveau. Dans la musique, très peu après le dernier morceau qu'on a entendu. Donc là, ils sont encore tous ensemble, ils chantent encore ensemble, même s'ils ne chantent pas la même chose, ils chantent encore les mêmes paroles, quand même, c'est le même texte, parce qu'on est en musique sacrée, mais on va voir apparaître des choses beaucoup plus complexes, où on ne chante pas du tout les mêmes textes. Les DJ d'aujourd'hui, ils n'inventent rien. Donc là, on a des trucs extrêmement complexes, un chantier qui s'ouvre, qu'il va falloir des siècles pour y mettre de l'ordre, n'est-ce pas? C'est Bach, par exemple, un des figures importantes, le grand mathématicien de la musique, qui va codifier ces choses-là de façon à ce que ça soit possible. Cette pensée verticale de la musique, qui aboutira sur l'idée de symphonie, qui nous est familière, l'idée de symphonie vient beaucoup plus tard, début 18e, fin 17e, début 18e. Donc l'idée de composer verticalement. Là, pour le moment, on chante avec une dimension verticale qui est très présente, mais on ne pense pas encore au niveau de la composition de verticalement. C'est trop complexe, c'est trop compliqué. Donc, vous voyez qu'il faut quand même du temps pour que ces innovations esthétiques fassent leur chemin, comme il a fallu du temps, et il en faut encore, pour que l'innovation, par exemple, de l'art abstrait, fasse son chemin dans les consciences et dans les mentalités. Un petit extrait pour peut-être illustrer ce nouveau monde qui apparaît. D'anatomie dans la tessiture de la voix humaine, trop humaine, encore une fois. Là, on est à la Renaissance déjà, des nouvelles formes musicales qui apparaissent comme l'opéra. Mais la porte a été ouverte à laquelle on a assisté, à l'ouverture à laquelle on a assisté, ça mène, ça conduit à ces choses-là et ça a conduit à l'équivalent également dans les représentations la représentation du monde. Donc l'homme désormais est seul sur la terre, il se découvre, parfois de façon magnifique, comme ici, mais de façon un peu tragique aussi, d'un certain point de vue. On peut le voir en image, je vous promets, il n'y a que cinq images, et après je m'arrête. Donc pour bien essayer de saisir encore une fois ce nouveau monde, dont on parlera encore la prochaine fois. L'ouverture, donc, on regarde par la fenêtre, on ne regarde plus à l'intérieur de son âme, non pas qu'on ne regarde plus, mais on regarde moins, peut-être qu'on regarde davantage ailleurs. Il y a une forme de narcissisme dans cette solitude humaine. On se complaît dans la découverte de l'être humain terrestre, comme on se complaît dans cette voix du solo tout à l'heure qu'on vient d'entendre, avec les vanités et toute la vanité qui peut évidemment l'accompagner, des nouveaux mythes qui parlent davantage à cette époque qu'à une autre époque, bien sûr. Je passe. Et des nouvelles questions métaphysiques, des questions existentielles nouvelles qui se posent, non plus comme à gauche un reflet donc des temps passés où c'est le rapport de l'homme à Dieu qui était la question existentielle principale. Maintenant, on a des nouvelles questions existentielles du rapport de l'homme au monde dans lequel il se trouve et qu'il fabrique. Donc il est en train de fabriquer un monde qui lui échappe du point de vue de l'intellection, du point de vue de la compréhension, du point de vue des aspects moraux, du point de vue des conséquences qu'il peut y avoir sur la survie même de ce monde, etc. La puissance humaine que vous voyez dans cette image de Montpellier à gauche, mais également la solitude qui s'ensuit. Donc on est vraiment dans un monde qui pose ces questions avec lesquelles nous vivons encore aujourd'hui. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui s'est ouvert à ce moment. Voilà, c'est... Excusez-moi pour avoir débordé un peu sur l'horaire à cause de la musique, parce que c'est pas possible avec la musique de reprendre ça dans l'humain. Voilà, donc il reste quand même une bonne demi-heure pour des questions, des commentaires. Si vous voulez revoir les images ou écouter un peu de la musique, moi je suis à votre disposition.